tous, on est le vendredi 25 octobre, c'est une nouvelle émission de Fracture qui se fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui la thématique va être sur le Kurdistan et la situation en Syrie. Je suis en compagnie de Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Et nous aurons tout à l'heure deux autres intervenants avec lesquels nous aurons le plaisir de nous entretenir sur cette question. Mais avant d'aller plus loin, on va commencer par nos traditionnelles brèves d'actualité sur ce qui se passe un petit peu dans le monde de la lutte et de l'activité politique, si on peut dire. Alors, en brève locale, on a deux brèves, à savoir une brève sur Angers, où le 21 septembre 2019 se tenait une manifestation antifasciste contre l'ouverture d'un bar identitaire, l'Alvarium, qui a déjà ouvert. Et donc, lors de cette manifestation antifasciste, plusieurs personnes ont été arrêtées ou blessées lors de la manifestation. Et ainsi, pour soutenir ces personnes face à la justice qui va les inculper dans le cadre de cette manifestation, vous pouvez faire un don sur CotisUp, qui est un site de cagnotte en ligne. Par rapport à cette situation à Angers, on peut noter aussi qu'il y avait eu une autre manifestation organisée par le collectif antifasciste Poitevin en septembre 2018 et que l'on peut trouver plus d'informations sur le site antifasciste lahorde-samizdat.net. Ensuite, en deuxième brève locale, on citera à Poitiers qu'il s'est tenu le 22 octobre un rassemblement contre l'islamophobie suite aux propos de l'élu Rassemblement National qui avait demandé à une accompagnatrice scolaire voilée qui était membre du public de sortir de l'Assemblée du Conseil Régional où cette femme venait accompagner donc une sortie scolaire. Donc ce soutien a eu lieu à Poitiers en rassemblement en soutien contre l'islamophobie. Notons aussi que suite à ces propos dégueulasses de la part de l'élu Rassemblement National, Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, n'a pas manqué de dire que le voile n'était tout simplement pas souhaitable dans les espaces publics, français. Et bien sûr, il ne parlait pas de celles qu'on appelle les bonnes sœurs, qu'on croise souvent à Poitiers. Cette déclaration était bien sûr destinée principalement aux femmes musulmanes. Voilà pour les brèves locales. Au niveau des brèves internationales, on citera au Liban un mouvement de révolte populaire qui a lieu en ce moment suite à un projet de taxe contre les communications et mouvement de révolte populaire qui s'est transformé en mouvement de révolte contre un système corrompu. Pour le reste du monde, on citera aussi le mouvement qu'il se passe à l'heure actuelle au Chili, où suite à une augmentation du prix du billet des transports en commun, mais aussi tout un tas de réformes néolibérales à venir, et notamment un volet sur les retraites, la population s'est révoltée et s'est lancée dans un grand mouvement de protestation qui a déjà à l'heure actuelle fait une dizaine de morts du côté des manifestations suite à une forte répression. Et donc comme quoi, que ce soit en Europe, à l'est de la Méditerranée ou en Amérique, les gens en ont marre de se faire taxer et qu'une taxe de plus, ça peut mettre le feu aux poudres. Voilà ce qu'on peut dire pour ces brèves locales et internationales, à moins que Jean-Pierre, tu aies une brève à ajouter.
Non.
Très bien. Donc, on va pouvoir entamer un petit peu le cœur de l'émission. Je vais donc passer d'abord une chanson une chanson kurde d'un groupe qui s'appelle donc Nitishman. Nitishman, c'est un groupe qui rassemble des Kurdes de différents pays, puisque on aura l'occasion de l'aborder, mais le Kurdistan est éclaté sur plusieurs pays. Et donc, cette chanson s'appelle Leylo M. Atn, excusez-moi pour ma prononciation qui écorche certainement les mots. Mais en tout cas, voilà, c'est un groupe Nitishman. C'est de la chanson traditionnelle kurde. Donc, on s'écoute ça avant que Jean-Pierre nous fasse une introduction politico-historique sur la question kurde.
Oh,
Oui, rebonsoir. On sait qu'en politique, un clou chasse l'autre. Hein. On se rappelle qu'il y a quelques semaines, quelques mois, il n'y avait pas plus gentil que les Kurdes. C'était les bons, c'était les gentils, c'était ceux qui œuvraient contre Daesh. C'est eux qui faisaient le travail de se faire tuer, alors que les puissances occidentales, qui avaient pourtant juré d'éradiquer Daesh, mais aussi Bachar el-Assad, ça fait 2 ou 3 ans, n'y étaient pas parvenus. Et bien là, on a laissé les Kurdes qui faisaient ce travail. Alors on pourrait se demander pourquoi ils ont fait ce travail. Et ils ont fait ce travail simplement parce qu'ils étaient extrêmement motivés à éradiquer Daesh. Bien sûr, les Occidentaux étaient aussi motivés pour éradiquer Daesh, dans la mesure où Daesh faisait des actions sur les territoires américains, français, européens, etc. Mais enfin, ça n'allait pas extrêmement loin. Tandis que les Kurdes du nord de la Syrie, les organisations kurdes du nord de la Syrie, elles étaient motivées simplement parce qu'elles ne voulaient pas être dominées directement par Daesh, parce qu'il y avait deux projets de société, deux projets politiques radicalement différents, et qu'il était évident que si Daesh prenait le pouvoir, les Kurdes se seraient fait massacrer, et en particulier les femmes, dont on sait que Daesh ne les porte pas dans leur cœur, sinon qu'elles refusent de jouer un rôle traditionnel. Alors, à partir de là, les Kurdes, c'était quoi? Les Kurdes, ben, ces Kurdes, on se rappelle qu'à l'époque, ils étaient bien gentils, malgré tout, ils étaient sur la liste des terroristes, hein, dans la liste établie par les grandes puissances, en particulier les Américains. Mais bon, là, ils servaient, alors ben, on a oublié un peu qu'ils étaient terroristes, et on a choisi de faire la guerre à d'autres terroristes qui étaient Daesh. Mais maintenant que Daesh a été éradiqué, disent-ils, parce qu'on verra peut-être probablement par la suite que c'est pas du tout fini. Mais on nous a fait croire, on nous a dit que Daesh avait été vaincu, très bien, ils ont été vaincus dans une partie du nord de la Syrie. Hein? Et bien maintenant, le rapport aux organisations kurdes du nord de la Syrie, au Rojava, ont complètement changé. C'est-à-dire que ceux qui accusaient ces Kurdes, ces organisations kurdes, en particulier le PKK en Turquie, d'être des terroristes, eh bien, ils sont redevenus des terroristes. Ils étaient gentils, maintenant ils sont redevenus méchants. Ils sont redevenus méchants d'abord parce que, effectivement, les ennemis, ils n'en manquent pas. Ils ne manquent pas d'ennemis. Historiquement, depuis des dizaines d'années, le combat fait rage à l'est de la Turquie entre les communautés kurdes, en particulier le PKK, qui est l'organisation la plus représentative et la plus combative. C'est une lutte permanente s'est traduite par des centaines et des milliers de morts. Donc la Turquie, c'est le premier ennemi des Kurdes. Mais les Kurdes ne sont pas non plus en odeur de sainteté auprès du régime syrien. Le Bachar el-Assad, mais aussi l'opposition à Bachar el-Assad, les armées dites démocratiques en Syrie, ne voient pas du tout d'un bon oeil, n'ont absolument pas envie de voir ce qu'une partie de leur territoire au nord soit amputée et soit sous administration, sous gestion des communautés kurdes. Donc la Syrie ne veut pas en entendre parler. Et bien entendu, les grandes puissances américaines, européennes, ne voient pas non plus d'un bon oeil le projet politique des Kurdes. Et il faut parler un petit peu de ce projet politique des Kurdes. Parce que, autant avant le fait de les condamner comme terroristes s'appuyait sur le fait qu'ils se revendiquaient du marxisme-léninisme, et le marxisme-léninisme n'était pas en odeur de sainteté dans le monde, effectivement, puisque ça avait donné lieu à toutes les choses qu'on connaît, le goulag, etc. Seulement, entre-temps, les choses ont légèrement changé. Le PKK, comme les organisations du Nord, prétendent, disent qu'elles ont abandonné cette ligne politique, et on n'a pas de raison de ne pas les croire. On a beaucoup de raisons d'aller y vérifier. On a des raisons d'être critiques, de voir de près, mais on n'a pas de raison de rejeter tout ça a priori. Alors pourquoi ils ont changé de projet politique? Parce qu'ils se sont rendus compte que, pragmatiquement, demander l'indépendance, c'était impossible. C'est impossible parce que d'habitude, les luttes de libération nationale traditionnelles, c'est un peuple contre un pays, voire un peu un deuxième éventuellement, mais c'est un peuple contre un pays. Or là, c'était un peuple contre 5 pays. Hein.
C'est-à-dire, le Kurdistan, il est à cheval sur la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, une partie de la Russie, etc. Et que, effectivement, ça devenait extrêmement difficile, c'était peu probable d'obtenir un État. Ils se sont dit, notre objectif, ça ne va plus être un État, ça va être de proposer un projet pour le Proche-Orient, un projet qu'ils ont appelé communaliste, mais un projet qui mette en œuvre des communautés humaines qui ne tiennent pas compte des frontières, qui ne tiennent pas compte de toute une série de cadres qui sont imposés par les États, mais qui ne se situent pas non plus en dehors de ces États. Et évidemment, ces projets, c'est un peu le chien dans un jeu de quilles au Proche-Orient, à une période, à un moment, où tout fout le camp là-bas. Hein ? On a souvent dit que les conflits au Proche-Orient et au Moyen-Orient étaient religieux. C'est de moins en moins vrai, c'est complètement faux. On se rappelle quand même que la guerre Iran-Irak opposait deux chiites. C'était les deux grands pays chiites qui se sont battus avec, dans la plus grande guerre de l'après-Deuxième Guerre mondiale, hein, avec pratiquement 2 millions de morts. Au Liban, dont on parlait un peu tout à l'heure, les communautés de base chiites, s'opposent au gouvernement dans lequel il y a des chiites. La base du Hezbollah ne respecte pas forcément le respect et les consignes qui y sont. Donc il y a un écrasement, un éclatement un peu des clivages traditionnels et ils en reviennent un peu à des clivages plus sociaux. Et évidemment, le projet que les Kurdes présentent peut tisser des liens, peut avoir de l'écho auprès des populations de ce Proche-Orient et de ce Moyen-Orient. Et on sait très bien que dans ce Proche et Moyen-Orient, il y a énormément de guerres. C'est en permanence la guerre. Et on sait que toujours, ça se termine toujours par les mêmes vaincus. Toujours par les mêmes vaincus, hein, comme l'Allemagne gagne les matchs de foot, toujours, là c'est toujours les mêmes vaincus, c'est les Kurdes et les Palestiniens. Bon. Et déjà, il y en a un peu marre, il y a des populations entières qui en ont un peu marre, en tout cas en Syrie, en Irak, où il y a en ce moment un très grand mouvement social aussi en Irak. Et donc le projet kurde, il peut trouver écho. Tant sur la manière de s'organiser que sur la revendication d'égalité, sur l'égalité homme-femme. Au niveau de la solidarité, on peut dire que le problème, il est qu'effectivement, on ne peut pas faire grand-chose directement, à part aller se battre là-bas, mais on ne va pas faire des appels à y aller, et puis ça concernerait qu'une toute petite partie des gens. Mais effectivement, c'est se joindre, tisser des liens de solidarité avec les Kurdes d'Europe, parce qu'il faut bien dire que les Kurdes, autant leur territoire est énorme sur les 5 pays dont on a parlé, mais autant les plus grandes communautés les kurdes, elles sont aussi en Allemagne et en France. Et donc, on a tous vu que les Kurdes descendaient dans la rue pour soutenir leur projet et descendaient contre la répression. Et bien là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a surtout à démonter le mécanisme qui font que les États veulent absolument rester sur un statu quo issu de des deux guerres mondiales, de dépeçage de cette région, de traçage de frontières rectilignes en fonction des accords entre eux et des intérêts entre eux. Et on sait que l'intérêt principal, c'est le pétrole, c'est les flux de ressources de gaz, et qu'en définitive, c'est bien ça qui est en question. Et les États-Unis, du moment qu'ils peuvent contrôler une partie, du moment que leur gaz et leur pétrole est acheminé, ils sont un peu obligés de laisser dominer la région maintenant, après ce conflit, aux trois grands vainqueurs, qui sont la Russie, Bachar et la Turquie. On va faire une petite pause musicale avant de rentrer en contact avec nos amis.
Tout à fait. Donc, on va s'écouter une chanson qui s'appelle Lions of Kurdistan du groupe Krang. C'est ce qu'on appelle du hardcore mélodique. Ça dure 1 minute 40. Et dans 1 minute 40, nous serons donc en ligne avec nos deux invités. À tout de suite.
Come on!